Le débat africain. Alain Foucault.
Le chiffre sonnait tellement bien que certains y voyaient une année 20 sur 20. C'était sans compter sur ce désormais célèbre virus, ce tueur froid, qui s'attaque au plus faible, le coronavirus qui l'a transformé en anus horribilis. Que retenir de 2020? Quel bilan dresser de cette année qui a fauché plus d'un million et demi de personnes à travers le monde? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui revient sur la défunte année 2020 que tous avons été contents de quitter. Plusieurs invités au téléphone dans quelques capitales subsahariennes et à Paris. D'abord, Madame Sena Boudia, la présidente de l'agence de conseil en stratégie et relations publiques Global Mind Consulting, qui est présente en Afrique de l'Ouest et centrale. Elle célèbre d'ailleurs ses 10 ans cette année. Je rappelle que Sena Boudia a reçu le prix de la femme entrepreneur de l'année au Hub Africa Awards 2018. Bonjour Sena Boudia.
Bonjour Alain.
Notre seconde invitée est une autre dame de poigne, une femme de réseau très portée sur le développement économique de son pays en particulier et de l'Afrique en général. Elle est expert comptable diplômée en business coach certifié. Mariem Deifal a construit un solide réseau de consultance en Afrique de l'Ouest. Elle est la directrice générale du cabinet JNG, Gugu Angidi, qui est le correspondant de BDO Afrique francophone, cinquième groupe mondial d'audit et de conseil. Elle est au Sénégal. Mariem est également la présidente du réseau Entreprendre. Bonjour Mariem.
Bonjour Alain.
Notre troisième invité est un confrère, Francis Patindé, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique et du Monde Afrique, aujourd'hui enseignant à Sciences Po Paris. Bonjour Francis Patindé.
Bonjour Alain.
Notre dernier invité aujourd'hui est un président fondateur, très aimé de son peuple qui l'a protégé tout au long de cette année, d'abord de la Covid et de ses conséquences. Zéro victime, une performance unique. Le président fondateur de la République très très démocratique du Gondwana. Bonjour Maman.
Bonjour Alain.
Merci d'être là. Alors, j'ai envie de poser la question tout de suite à Mariem. Que retenir de cette année 2020 qui s'est terminée il y a quelques jours?
2020, année, je dirais, de résilience. Difficile, hein, comme tout le monde dit. Mais surtout, qui nous a permis de nous réinventer et de voir les choses autrement. Et je pense que chacun a cherché ou a su dépasser ses limites ou ses surpasser. Et on le voit beaucoup localement au niveau, au niveau du Sénégal, au niveau de l'écosystème entrepreneurial.
Donc pour vous, d'entrée des jeux, avant qu'on entre dans le développement, c'est d'abord le Covid-19, comme pour tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire, quand vous parlez de se revoir, c'est que vous avez assisté à quelque chose d'inédit, comme tout le monde. L'arrêt du monde par un virus qu'on ne voyait pas, un ennemi qui était imperceptible, mais qui faisait beaucoup de ravages. C'est la même chose que vous retenez, Francis Patindé?
Pas du tout. En fait, bon, l'épidémie est là, on l'a dit, avec des restrictions que ça nous impose à tous.
Mais, oui, moi, mais ça reste l'événement de l'année.
C'est l'événement de l'année, l'événement global. Mais moi, sous le couvert de l'épidémie, il y a eu pas mal de loupés, pas mal de ratés en Afrique. Il y a eu des opportunités manquées. Vous savez que 2020, c'était l'année des 60 ans des indépendances africaines. Je trouve qu'on n'aurait pas... Oui, absolument. Et on a raté pas mal de choses. On a fait des prises d'armes, il y a eu des défilés militaires, mais on aurait dû saisir l'opportunité, en dépit de la pandémie, pour faire une réflexion sérieuse, ce qui a marché pendant ces 60 ans, ce qui n'a pas marché, le chemin qui nous reste à parcourir, et comment redresser la barre de façon plus efficiente, plus méthodique.
Donc pour vous, c'est les 60 ans d'indépendance qui n'ont pas été l'occasion comme on le souhaitait, et nous avons essayé de le faire dans ce magazine, qui n'ont pas été le moment de faire le point des 60 ans, de faire un bilan des 60 ans. Sena Boudia, pour vous, c'était quoi?
Je crois qu'on n'a jamais eu une occasion aussi sérieuse de pouvoir aussi repenser nos modèles de développement. Le Covid qui a marqué cette année 2020, on peut en tirer au moins un enseignement, je crois, qui est le suivant, c'est que plus que jamais, les Africains doivent penser leur propre modèle de développement. Tout le monde a annoncé la fin du continent africain avec le Covid. Nous annonçons une série de morts aujourd'hui de manière factuelle. Quand j'échange avec des experts, on me dit, dont Abunsal et d'autres, on me dit que l'Afrique, dans sa globalité, a eu autant de morts que l'Italie. Oui. C'est-à-dire que la mort annoncée la pandémie qui allait ravager tout le continent africain qui n'était pas préparé, ne s'est pas passée. Et ça veut bien dire qu'il y a eu une réactivité des pays africains, qu'il y a eu une capacité à pouvoir aussi s'organiser et à saisir tout de suite les enjeux. Et ça, je pense que quand même, il faut aussi le valoriser.
Alors, ce que je vais retenir, c'est un, le Covid, là, Senabou Dia revient dessus. Deux, il y a eu les indépendances africaines, c'est ce qu'évoquait Patindé, justement. Pour vous, Maman, c'était quoi qu'il faut retenir?
Moi, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le Covid. Mon réflexe, parce que le confinement, à partir de mars, quand j'ai su qu'il allait avoir le confinement, que les frontières allaient se fermer, mon réflexe a été quoi? Eh bien, je suis rentré chez moi au Niger. C'est pour vous dire, juste par ce geste-là, que j'avais aucune inquiétude là-dessus. Je suis rentré chez moi dans le pays où je suis né, le Niger. Et avec le recul, je vois que l'Afrique n'a pas été impactée comme le reste du monde.
On n'a pas ramassé les cadavres sur la route. Exactement. Comme l'avaient prédit certains, oui.
Oui, comme l'avait dit Belinda Gates, la femme de Bill Gates.
Tout à fait.
Et donc j'avais cette confiance qui était en moi. Je suis rentré chez moi au Niger où j'ai passé 5 mois de ce confinement. Et ça m'a rapproché de mon pays, ça m'a donné une foi en l'Afrique, dans ce pays, le Niger, toujours dans les médias, à chaque fois qu'on parle du Niger, on dit c'est le pays le plus pauvre de la planète. Et bien moi, je suis rentré chez moi et je le regrette pas. Et j'ai vu les potentialités qu'il y a dans ce pays et dans toute l'Afrique avec cette image-là. Et dans le confinement, on a vu que avec l'agriculture, avec le commerce, il faut que les pays africains comptent sur eux-mêmes. On a vu tous les pays ont fermé leurs frontières et donc il fallait donc se nourrir sur son agriculture, sur son élevage. Et la leçon qu'on devrait tenir, c'est avec ces 60 ans d'indépendance, avec ce Covid-19, c'est que les pays africains doivent commencer à compter sur eux-mêmes et sur leurs voisins, qu'on développe le commerce interafricain avec la Zleka, là, qui est d'actualité.
On va en parler dans un instant. Mais ce que je remarque, c'est que tous les quatre, vous avez parlé de vous projeter dans le futur, ce qui est très très bien. Mais je voudrais qu'on parle aussi de ce qu'on a perdu pendant cette année avant de nous inscrire dans le futur. Peut-être que ça va nous instruire. C'est une année où on a perdu de grands noms. Manu Dibango, Pape Diouf et Jerry Rawlings, Amadou Toumani Touré et encore plus récemment Mamadou Tanja. Est-ce que ce n'est pas des grosses pertes qui doivent rester dans l'histoire de 2020 pour les Africains, Senabou Dia?
Définitivement, c'est des pertes colossales. Tous les noms que vous venez de citer sont quand même des personnes qui ont influencé plus que leur génération. Mm-hmm. Ils ont tracé une voie, chacun dans leur domaine respectif. Et je crois que ce qu'on doit garder d'eux, pour avoir eu l'occasion de connaître Pape Diouf, à titre d'exemple, c'est aussi de retenir les leçons qu'ils continuent à nous apprendre, à nous donner, en nous quittant malheureusement. Ils sont tous des panafricanistes convaincus. Ils sont tous ouverts, ils ont toujours été ouverts sur le monde.
Tout à fait.
Et cette croyance en l'Afrique et en son devenir, aujourd'hui, je pense que c'est aussi notre responsabilité de la matérialiser. On doit dépasser les mots, parce qu'il est temps de passer à l'action. On ne peut plus se contenter d'uniquement parler des problématiques qui se posent dans le continent. Je pense qu'aujourd'hui, on doit commencer à intégrer. On doit les saisir comme de véritables opportunités.
Alors, on entend beaucoup ce discours chez les Africains que oui, ça a été grave. Oui, le Covid-19 a bousculé beaucoup de choses. C'est peut-être un nouveau départ. C'est vraiment un départ. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible, Francis Patindé?
À mon sens, non. Comme on a dit, ça n'a pas beaucoup frappé l'Afrique. Encore que je pense qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas baisser la garde. Et il n'est pas exclu que les vagues futures atteignent l'Afrique de façon beaucoup plus méchante. Donc je pense qu'il faut maintenir la garde. On a vivement bien réagi au début dans la plupart des pays en contrôlant, en fermant les frontières, en interdisant les vols et en continuant à faire des contrôles. Je pense qu'il faut maintenir le cap, rester sérieux parce que moi je vois, il y a eu quelques jours, j'ai vu des manifestations à Freetown, à Makeni et dans d'autres pays africains où les gens, personne ne portait le masque. Je pense qu'il faut porter le masque même si les Africains sont moins touchés que les autres. Et 2021, qui s'ouvre à nous, montrera notre sérieux. On pourra dire, voilà, les Africains ont fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Un pays comme les États-Unis n'a pas pu faire.
Alors là, je n'ai pas entendu parler des événements qui se sont déroulés au cours de cette année-là. On a le sentiment que le Covid-19 vient occulter des grands événements comme les élections en Côte d'Ivoire qui ont été très chahutées, les élections en Guinée ou encore les élections au Burkina Faso. Est-ce que finalement le Covid n'est pas venu, on va dire, mettre tout cela au second plan? Là, je pose la question à Marem.
Je dirais tout à fait, parce que le Covid
nous a montré qu'il fallait nous recentrer quelque part sur les choses les plus importantes pour nous. Et je pense que cette année a beaucoup plus été une année, on va dire, où chacun a cherché à être plus proche de sa famille, justement, malgré la distanciation, à renforcer dans la convivialité et les aspects de santé tout autour de soi. Et puis, bien sûr, chaque pays, comme je disais, a cherché à être plus résilient et donc à mettre en place les conditions pour continuer à fonctionner, à vivre, malgré la situation. Ce qui fait que, effectivement, peut-être on s'est beaucoup plus recentré sur nous-mêmes, sur des choses qu'on a considérées plus essentielles et moins se concentrer sur d'autres aspects qui étaient du coup devenus un peu plus étrangers.
Alors je voudrais que l'on évoque les sujets qu'il y a eu qui ont marqué l'année 2020. Ensuite on tirera les conclusions dans la seconde partie de ce magazine. Là personne ne parle de politique. Il y a quand même eu des événements politiques importants. Maman, vous les avez commentés sur notre antenne.
Oui.
Même si vous étiez à Niamey tranquillement au soleil en train de manger du kilichi, vous écoutiez quand même.
Oui, j'écoutais et puis les gens pouvaient m'écouter à l'antenne de RFI.
Absolument.
Moi, là, vous aviez évoqué tout à l'heure, Alain, le décès de Rawlings, de Mamadou Tandja. La leçon qu'on peut retenir de ces deux décès-là, Mamadou Toumani Touré, mais je retiens ces deux-là, Tandja et Rawlings, à dessein, parce que ils sont morts chez eux, dans leur pays. Contrairement à la plupart de nos chefs d'État. Et c'est une leçon qu'on devrait retenir parce que ça marque le besoin de construire des hôpitaux chez nous, en Afrique. Au moindre petit rhume, à la moindre petite entorse de la cheville, nos chefs d'État, nos ministres, ils partent se faire soigner à Paris, à l'étranger.
Et est-ce là, que le président fondateur se soigne chez lui?
Lui, il a un hôpital dans son palais avec les meilleurs médecins. et l'un des événements aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, Alain, c'est les élections au Burkina Faso. Je trouve que les médias n'en ont pas fait assez sur les élections au Burkina Faso, comment elles se sont passées tranquillement. C'est comme on dit, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et là, on a eu des élections, le président a gagné au premier tour, les opposants l'ont félicité immédiatement après, et voilà, business as usual, ça doit être comme ça les élections.
Tout le contraire de ce qui s'est passé en Guinée et en Côte d'Ivoire.
Oui, tout le contraire. C'est dommage, c'est pas cet exemple qu'on doit montrer. Les élections, ça doit être, on fait les élections, je gagne, tu perds, tu me félicites, et puis tu attends la prochaine fois.
Mais vous
fois.
Aurez du mal à vous faire entendre en ce moment avec ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, où on a vu Trump, jusqu'au dernier moment, dire non, moi, vous avez triché, moi, j'ai pas perdu, j'ai gagné. Donc, on a un peu de mal à se dire, ce soit le propre de l'Afrique, maintenant.
Trump, on lui a donné le passeport du Gondwana, en fait, c'est président.
Je me doutais bien, c'est un citoyen d'honneur. Francis Patindé, de vous, j'attendais que vous parliez de cette libération, de cette arrestation et cette libération de Soumaïla Cissé qui a entraîné la libération de 200 djihadistes.
Bon, moi je suis content pour Soumaïla qu'il soit dehors. Mm-hmm. Bon, c'est vrai que les djihadistes, il y a une contrepartie à payer à cela. Mais il y a eu Soumaïla, il y a eu d'autres personnes qui ont été libérées. Mm-hmm. Et ce qui m'a inquiété pour le Mali, c'est tout à fait autre chose. C'est le coup d'État.
Le renversement du Béka.
Le Mali, depuis des décennies, à part le coup d'État de 1991 contre Moussa Traoré, tous les coups d'État qui se sont déroulés, qui ont eu pour cadre le Mali, ont porté malheur à ce pays. Ça a été le cas en 2012, lorsqu'on a renversé le président Atété. Et me semble-t-il... Et ce sera le cas avec la chute du président Ibeka. Parce que, figurez-vous, ça fait 3-4 mois, depuis le 18 août, si ma mémoire est bonne, que ce gouvernement est en place. Ça fait plusieurs mois et on fait du surplace. Les choses ne bougent pas. On ne voit pas la plus-value de ce coup d'État-là. Voyez. Donc il faut faire attention. C'est bien beau de renverser des chefs d'État élus, mais il faut avoir quelque chose à proposer. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Alain, je voudrais prendre juste une minute pour dire que la pandémie de Covid nous a empêchés aussi d'avoir une autre réflexion. Tout le monde en Afrique a perdu la mémoire, à commencer par le Bénin, dont les actuels dirigeants ont commémoré en catimini, pour ne pas dire de façon honteuse, le trentenaire de la fameuse conférence nationale de février 1990. Cette conférence a été un détonateur. Cette conférence a permis à l'ancien mouvement de restauration du pluralisme et ou de la démocratie électorale en Afrique, mais on l'a passé sous silence. Vous savez, cette pandémie nous a enlevé beaucoup de débats. Le débat nécessaire, fondateur et fécond sur les 60 ans d'indépendance et le débat, cet autre débat sur le pluralisme politique, sur la démocratie en Afrique.
Alors, on va parler beaucoup de Covid dans la seconde partie, mais j'ai envie qu'avant qu'on ne parle des leçons à tirer de cette pandémie, comment vous vous expliquez, vous Africains, le fait que l'Afrique ait été aussi peu touchée? Généralement, c'est elle qui est le théâtre des grandes pandémies. Qu'est-ce qui explique que ce coup-ci, elle soit, on va dire, relativement épargnée? Senaboudia.
Je pense qu'au-delà des facteurs exogènes, hein, climatiques, génétiques et autres, c'est surtout aussi les efforts, hein, des pays africains, leur réactivité pour essayer de juguler cette crise et puis avoir une bonne gestion en interne, en mobilisant aussi les experts qui existent, parce qu'on en a beaucoup, et ça on a tendance à pas suffisamment le rappeler. D'ailleurs, moi je m'étonne souvent de voir que on n'invite pas suffisamment de scientifiques africains, de virologues africains, d'infectiologues. Quand je prends le seul cas du Sénégal, je pense qu'il faut plus que féliciter nos médecins, qui ont été particulièrement réactifs et professionnels dans la gestion de cette pandémie. Je crois aussi que notre expérience passée, malheureusement, entre Ebola et les autres maladies que nous avons déjà vécues, nous a servi cette fois-ci pour pouvoir avoir les bons automatismes. Et je crois que vraiment, c'est aussi notre capacité à nous montrer extrêmement solidaires. Moi, j'ai été extrêmement frappée de voir à quel point les Africains ont su sortir de leur seule considération individuelle pour pouvoir s'organiser et se dire, mais tiens, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, cette crise du Covid, mais force est de constater qu'il faut qu'on se protège nous-mêmes, il faut aussi qu'on s'assure que les autres soient en mesure de pouvoir se protéger pour limiter la propagation. Et là, on a vu une créativité, on a vu une solidarité s'organiser de manière très spontanée au niveau des acteurs culturels. Je pense que Maman me rejoindra là-dessus. On a eu beaucoup d'artistes qui se sont organisés en collectif pour essayer de sensibiliser un maximum de population. On a vu des graphistes prendre l'assaut des murs des quartiers les plus pauvres dans les différents pays pour essayer de dessiner et de montrer ce qu'il fallait essayer d'adopter comme geste pour se protéger. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose d'important à saluer, parce que du coup, les gens ont pris la mesure des enjeux et globalement, on peut saluer cette capacité à pouvoir justement se montrer extrêmement solidaire, réactif, pour essayer de gérer au mieux cette pandémie. Ça a été pris au sérieux.
Maman, vous partagez le même point de vue. Est-ce que ça ne vient pas d'ailleurs, cette relative protection des Africains pendant cette pandémie du Covid-19? Est-ce que ça vient de l'organisation même des
Oui,
États?
Oui. On a trop l'habitude de taper sur nos autorités, les pouvoirs africains, mais là, il faut leur rendre hommage. Ils ont réagi au quart de tour. On a fermé les frontières terrestres, aériennes et tout. Les mesures ont été prises, la distanciation sociale. Et le reste du monde a découvert les gels hydroalcooliques. Moi, je me souviens, avec Ebola, on avait des gels hydroalcooliques un peu partout, des seaux avec de l'eau de Javel pour se laver les mains partout dans les rues, au Congo, en Côte d'Ivoire. Mais il y a une partie des Africains qui m'a déçu vraiment, qui n'ont pas su rebondir sur Ebola, sur le Covid. C'est tous nos marabouts, nos sorciers, nos féticheurs là. Tous les chercheurs sont en train de travailler pour avoir des vaccins. On entend vaccins en Russie, en Chine, aux États-Unis. Et nous, nos féticheurs, nos sorciers, qu'est-ce qu'ils font quand il s'agit de faire des escroqueries par Internet pour escroquer de l'argent aux gens, pour envoyer des sorts à son voisin, empoisonner les gens? Ça, ils sont forts.
Ils sont forts.
Mais là qu'on avait besoin d'eux pour trouver un vaccin contre Ebola,
ils ont tous disparu.
Ils n'ont rien fait.
Mais on a quand même vu fleurir dans les rues des pancartes de ces marabouts là qui disaient soigner la Covid-19. Je sais plus si on dit la Covid ou bien le Covid, chacun dira comme il voudra, mais généralement quand ça devient très dangereux, ça devient féminin, donc c'est devenu la Covid-19. Moi, je dirais le Covid-19.
On va rester sur le
Covid. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal pour la seconde partie du débat africain. On partira dans de la prospective. Restez à l'écoute et à très vite.
Le débat africain. Alain Foucault,
Manu Dibango, Pape Jerry Rawlings, Amadou Toumani Touré, Mamadou Tanja. Même si l'Afrique, pour une fois, a été moins frappée, moins touchée que les autres continents, elle aura tout de même payé un lourd tribut dans cette pandémie du Covid-19 qui restera comme l'événement majeur, le marqueur de l'année 2020 qui vient de se terminer. Que retiendra l'histoire de cet anus horribilis? Ce n'est pas un gros mot, hein, c'est le latin pour dire une année horrible. Rassurez-vous, je ne parle pas le latin ou peut-être un peu sous la torture. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré à la rétrospective 2020. Avec au téléphone, d'abord, Madame Senabou Dia, la présidente de l'agence de communication Global Mind Consulting. Je rappelle que Senabou Dia a reçu le prix de la femme entrepreneur de l'année au Hub Africa Awards 2018. Notre seconde invitée est une autre dame de poigne, une femme de réseau. Elle est expert comptable, diplômée en business coach certifié. Dame Mariem Fall a construit un solide réseau de consultance en Afrique de l'Ouest. Elle est la directrice générale du cabinet G&G, qui est le correspondant de BDO Afrique francophone, le cinquième groupe mondial d'audit et de conseil. Mariem est également la présidente du réseau Entreprendre. Notre troisième invité est un confrère, Francis Patindé, ancien rédacteur en chef de Jeune Afrique et du Monde Afrique, aujourd'hui enseignant à Sciences Po. Dernier invité, et pas des moindres aujourd'hui, le président fondateur, celui de la République très très démocratique du Gondwana. Maman, que vous pouvez retrouver du lundi au jeudi sur notre antenne dans la chronique de Maman. Alors, la plupart des Africains qu'on écoute disent « ça c'est l'année zéro pour l'Afrique ». Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on a l'impression que ce Covid-là a été plutôt perçu comme une opportunité, Senabou Dia?
Je pense que ça a été une invitation à nous montrer extrêmement agiles, à savoir nous adapter, parce qu'on n'était pas préparé. Personne n'était préparé à vivre ce que nous avons traversé durant cette année-là.
Aucun pays au monde.
Aucun pays au monde, et le secteur privé aussi, les entreprises, ont dû se montrer extrêmement ingénieuses pour pouvoir réorganiser le travail, pour pouvoir continuer à être présents. Moi, on a été beaucoup interpellés par certains de nos clients qui nous disaient « bon, on va essayer de complètement revoir la communication », et au contraire, ils ont été très responsables, parce qu'ils se sont dit « on va commencer à essayer de nous rapprocher de nos collaborateurs, de nos clients, pour essayer de leur expliquer, d'être responsables et de les sensibiliser sur comment se prémunir de ça ». Et en sortant des termes qui sont propres à l'Occident, quand on parle de gestes barrières, quand on utilise des termes comme ça qui peuvent parler à un Parisien, il faut être conscient que quand vous êtes un opérateur de téléphone,
voilà,
ça ne parle pas à celui qui habite au fond de Bobo-Dioulasso.
Voilà, ou à Fatick.
Exactement. Donc ça veut dire que dans la même manière de communiquer, il faut avoir cette capacité à pouvoir s'adresser, à adapter son message à la cible à qui il est destiné, et donc utiliser aussi des canaux qui vont être les plus pertinents. Donc moi, je suis assez frappée par cette capacité à avoir su tout de suite quand même se réorganiser et prendre la mesure des enjeux et continuer à être responsable en étant toujours présent, agile et aussi solidaire. Parce que ça, je voudrais insister là-dessus. S'il y a un enseignement aussi qu'on peut tirer de ce que nous venons de vivre, c'est aussi qu'on ne peut plus continuer à être auto-centré. On ne peut pas penser qu'à soi. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est une invitation aussi à être beaucoup plus humain, à revenir à l'essence même de ce que nous sommes. C'est des valeurs qui ont toujours été ancrées dans nos pays, en Afrique. Et ça, je crois qu'il faut qu'on arrive à le valoriser aussi. Plus de solidarité, moins d'égoïsme et plus de capacité à pouvoir fonctionner en équipe.
Alors, tout le monde parle de leçons. Tout le monde parle de leçons au sortir de ce Covid. On espère qu'on en sort. Francis Patindé, pour vous, quelles leçons tirer de ce qui vient de se passer, de cette année exceptionnelle, cette année horribilis?
Moi, j'ai trouvé que, pour une fois, la plupart de nos dirigeants ont bien réagi. J'ai été impressionné par le corps médical, les scientifiques de certains pays comme le Sénégal, je crois que c'est Zenabou qui en parlait tout à l'heure, et c'est vraiment remarquable. La médecine au Sénégal, l'Institut Pasteur, la médecine militaire surtout, qui a été appelée à la rescousse au Sénégal, avec des gens vraiment cartésiens qui bossent de façon rigoureuse, j'ai été assez impressionné. Je trouve que ça prouve que on nous annonce notre mort, on a les bonnes réactions. Et voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau du Covid, parce que moi je continue de l'appeler Covid. Et je trouve que la réaction a été bonne. Et il faut maintenir le cap. Le seul problème, c'est ça ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de gens semblent, il y a un relâchement qui est noté dans la plupart des pays. Il faut que les gens continuent. Et j'ai trouvé également remarquable que Éthiopiane ait continué de voler, et au plus fort de la pandémie, et que Éthiopien ait amené des gants, des masques, des médicaments dans la plupart des pays africains. Je trouve ça...
Éthiopien Airlines. Alors, Mariem, pour vous, quelles leçons tirer de cette année 2020?
La leçon principale, c'est, comme disait Labou, être agile et rester résilient dans tous les cas. Savoir se réinventer, parce qu'on a vu que sur le plan économique, les principales entreprises qui ont pu pivoter sont celles qui ont pu très rapidement ne pas déjà au départ céder à la panique, mais ensuite intégrer très rapidement les défis qui devaient être relevés et prendre en compte aussi les opportunités que finalement a créé le Covid. Moi, je vois plusieurs entreprises au Sénégal ou des entrepreneurs individuels qui ont vu leur activité s'arrêter du jour au lendemain, mais qui par la suite se sont réinventés, se sont mis à produire des masques, puisqu'on a eu énormément de masques en tissu qui ont été faits par différents entrepreneurs, ce qui a permis aussi de lutter plus efficacement contre la pandémie, puisque ça a été fait finalement à des prix dérisoires. D'autres, une industrie aussi, par exemple, qui était dans la peinture, qui a transformé une partie de son activité en produisant du gel hydroalcoolique. Donc, tout ça pour dire que même au plus fort de la crise, même au plus fort des problèmes, il faut savoir rester, bon, je dirais pas zen, mais en tout cas assez lucide et pouvoir être agile et traverser les périodes de turbulence.
Alors là, je me tourne vers Maman. Non, tout le monde parle de nouvelles priorités, de nouveaux paradigmes. Quelles sont ces nouvelles priorités qu'il faut adopter aujourd'hui après cette Covid qui a montrer que le monde pouvait s'arrêter et que les vérités des autres n'étaient pas forcément celles de l'Afrique?
Oui, les nouvelles priorités, moi je pense que nous les Africains, on doit se mettre dans la peau de celui qui est en train de jouer, par exemple, tu es en train de jouer avec contre quelqu'un au Scrabble ou aux dames et tu es en train de perdre. Et là, il y a l'occasion de tout renverser et de recommencer. Le Covid, pour moi, c'est un peu ce symbole de nouveau départ pour l'Afrique. Je suis triste de voir que dans beaucoup de pays africains, on consomme de la viande d'Argentine, qui vient d'ailleurs de l'oignon de Hollande, alors qu'on a de la bonne viande dans le Sahel, au Niger, au Mali, au Tchad. On a de l'oignon qui est magnifique, succulent au Niger, pour parler du Niger, de ça. Donc, il faut que les Africains nourrissent les Africains, qu'on retrouve cette solidarité, parce qu'on
oui, a surtout que les frontières ont été fermées et qu'il a fallu s'approvisionner localement. C'est peut-être l'occasion de se dire comment on organise la production agricole aujourd'hui.
Exactement, l'agriculture africaine peut nourrir les Africains et le monde entier. Faut plus qu'on entende que les gens viennent chercher l'uranium, le pétrole, le cacao, le café et repartent avec et nous le revendent sous forme de tablettes de chocolat. Ou dans mon spectacle, je parle de l'arachide et de cacahuète. Et j'ai dit aux gens, quand ton cousin est là-bas au Sénégal en train de cultiver, c'est l'arachide, puis on le prend, on la met dans des paquets, là-bas on vient, on te la revend, c'est des cacahuètes et ça coûte super cher. Pour parler que de l'humour que je connais très bien, le Covid-19 nous a donné l'occasion de voir que les salles de théâtre sont fermées. Donc un humoriste qui a l'habitude de jouer devant du public, il a fallu qu'on se renouvelle, il a fallu qu'on fasse le saut au 21e siècle et donc tout faire en ligne, par Internet. Moi, j'ai monté des émissions en ligne, en les filmant chez moi. Mes comédiens qui sont en Côte d'Ivoire les filmaient. On faisait le montage à distance et on livrait ça à Canal+, qui diffusait. Ça a été un grand succès. Le Parlement du Rire, pareil. J'ai monté le Parlement du Rire en vacances. On a tourné tous dans une villa en se passant du public. Donc, il faut se renouveler. Et lundi dernier, lundi 7 décembre, j'ai lancé une plateforme, la première plateforme d'humour africain où du monde entier, on peut regarder des spectacles un peu comme Netflix. Et c'est la première plateforme payante d'humour. Donc, on doit envahir, on doit prendre les nouvelles technologies, que ça soit les humoristes, les tailleurs, les bouchers. Toute l'Afrique doit vraiment faire le saut du 21e siècle technologique.
Toute l'Afrique doit être repensée, c'est ce qu'on lit partout, toute l'Afrique dans tous les domaines, puisque même dans le domaine économique, surtout dans le domaine économique, on entend les chefs d'entreprise se dire « il faut qu'on se réorganise, il faut qu'on pense autrement ». Francis Patindé, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ce n'est pas juste des discours? Est-ce que vous y croyez, vous? que tout va changer à partir de cela.
J'y crois, je me bats pour ça depuis toujours. Je pense que on peut, on a les moyens, on a la capacité intellectuelle, on a la capacité des sous-sols. On a quand même, c'est quand même paradoxal, on a le continent le plus riche de la planète. Qui met au défi qui que ce soit de me démontrer le contraire, c'est le continent le plus riche, le mieux arrosé.
Avec le plus de terres arables.
De terres arables, vous avez des mines, il en reste encore. Vous avez tout et vous avez une jeunesse qui est vigoureuse. Vous avez 65 à 70 % de la population est jeune. Vous savez, c'est un capital humain, mais extraordinaire. Mmh. On a tout ça. On a la connaissance, on a des intellectuels, on a tout. Il faut rationaliser ça et après... L'avenir nous appartient, tout le monde viendra. Ce n'est pas pour rien. Il y a une question qu'on doit se poser. Pourquoi tout le monde veut venir en Afrique?
Oui, mais dans le même temps, les jeunes Africains prennent la mer pour aller ailleurs.
Oui, parce que ça, c'est... Bon, il faut créer l'environnement. Mmh. Vous devez vous poser la question, pourquoi il n'y a pas de Seychellois, pourquoi il n'y a pas de Mauriciens, pourquoi il n'y a pas de Cap-Verdiens qui prennent des pirogues pour venir en Europe? Il y a une réponse à cela. C'est clair, c'est net. Vous voyez, donc, il y a l'économie, certes, mais il y a également des aspects politiques. Il faut qu'on reste, qu'on travaille en Afrique, une Afrique libre, une Afrique où prospère, ou une Afrique où les gens peuvent créer sans avoir à subir les foudres des dirigeants et des castes constituées, c'est tout.
Mais lorsqu'on entend ça, ça a l'air très très beau. A-t-on vraiment conscience de cela? Est-ce que les intellectuels, les cadres, les chefs d'entreprise que vous rencontrez, Zeina Boudia, ont conscience que le moment est venu pour le changement, que c'est peut-être une opportunité, comme vous le dites, ce Covid-19.
Je pense qu'on a tous compris aujourd'hui qu'on n'a pas le choix. Ce n'est pas une option, le fait de pouvoir saisir ces enjeux-là. C'est aujourd'hui une nécessité. C'est une responsabilité individuelle et collective. Moi, je suis heureuse de voir des entreprises, des groupes qui commencent, des groupes africains, qui commencent à dire on va se saisir de la question de l'éducation. Si on trouve que les gens ne sont pas suffisamment bien formés, en tout cas ce qu'on attend, ce dont on a besoin, parce qu'on a besoin d'avoir des profils qui soient opérationnels tout de suite, eh ben on va créer nos propres centres de formation. On va les accompagner pour qu'ils soient plus au fait de ce que l'on attend et de l'exigence que ça suppose, le fait de pouvoir faire carrière. Et ça, c'est quelque chose de très important. Les femmes sont en train aussi de prendre une dimension encore beaucoup plus importante sur ce continent, précisément parce qu'elles ont compris qu'il ne fallait pas attendre. Que la place, on ne va pas nous la donner, on va la prendre. Donc ça, c'est des enseignements qui sont importants et je crois qu'il faut les encourager. J'entendais parler tout à l'heure de la migration et de ces jeunes Africains qui se sentent obligés de traverser la mer. Nous avons une responsabilité là-dessus. On ne quitte pas son pays, on ne quitte pas sa famille, on ne quitte pas ses proches quand on sait qu'on a...
Oui, mais vous rencontrez les dirigeants, vous avez rencontré des chefs d'entreprise, des ministres. Est-ce que c'est le même discours? Est-ce que c'est pas là une pensée des intellectuels qui, à côté, réfléchissent tout simplement, mais qui n'ont pas le moyen de changer les choses?
Alors moi, j'ai une invitation, Alain, si tu me le permets, ce serait justement de prendre le contre-pied, ne pas attendre ces institutions, ces ministres, qui doivent impulser, qui doivent faire finalement leur travail, mais plutôt se dire à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire, à notre modeste niveau, qu'est-ce que nous, on peut initier. Je prends le cas de la culture. Mmh. Aujourd'hui, les acteurs culturels sont particulièrement impactés par cette crise-là, parce qu'ils n'ont pas pu se produire, parce qu'ils n'ont pas de système, comme on peut le voir en Occident, dans certains pays, où il y a un statut des acteurs culturels, qui peuvent avoir une assurance maladie, qui peuvent, quand ils n'ont pas la possibilité de travailler, qui sont quand même soutenus d'un point de vue financier. C'est pas le cas sur le continent africain. Ça veut dire que tout le monde, tous ces acteurs-là, ils sont livrés à eux-mêmes. Quid de notre capacité à pouvoir créer une véritable ou deux véritables industries créatives, de créer une industrie de la culture, d'en faire un volet économique à part entière, d'en faire un vecteur de développement économique capable de contribuer à la croissance dans nos pays. C'est possible. Et ça passe par des initiatives qui sont basiques. Je le vois ici. Je suis à Dakar actuellement, je suis arrivée hier. Et je rencontre des jeunes qui sont dans le domaine de la musique et qui ont décidé de créer leur propre espace de formation au métier de la régie, au métier de la sonorisation, etc. Ils n'ont attendu personne, ni le gouvernement, ni un quelconque mécène. Ils ont commencé avec leurs propres moyens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelques années plus tard, puisqu'on voit que ça fonctionne, eh bien, c'est ces fameuses institutions, cet État, qui commencent à soutenir et à vouloir accompagner et à vouloir être sur la photo. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe. Je crois qu'il ne faut pas attendre. En tout cas, moi, ce soir-là, je pense que...
Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Mais là, on écoute certains dire... C'est l'heure des vaccins. Tout le monde parle de vaccins, mais on n'entend rien du côté de l'Afrique. Pas même de la recherche africaine dans le domaine de la Covid-19 ou du Covid-19. Est-ce que ça n'interpelle pas un peu sur cette volonté dont vous parlez, Maman?
Oui, c'est, j'entends les Africains depuis longtemps, dès qu'on parle de vaccins, c'est de dire oui, nous on veut pas être les cobayes, ils vont pas venir tester leur vaccin chez nous. On se complaît dans cette position victimaire, alors que bon, si on veut pas tester les vaccins, on n'a qu'à fabriquer nos vaccins. Mm-hmm. C'est l'occasion d'impulser une industrie pharmaceutique, mettre beaucoup d'argent dans la recherche, ce qu'on ne fait pas, parce que nos
dirigeants...
C'est
pour ça que certains doutent encore de la leçon dont on parle. On dit on a tiré des leçons, mais on a le sentiment que c'est plus dans les verbes. J'espère que non.
Oui, c'est des mots. Et comme disait Zénaou, il faut que c'est par des entreprises individuelles que ça doit se prendre, qu'on doit se prendre en charge chacun dans son secteur. Zénaou disait qu'au Sénégal, des jeunes se sont pris en charge pour se former. Moi, à Niamey, je vais faire la pose de la première pierre de mon école de formation de comédien, d'humoriste, mais pour toute l'Afrique. Et ça sera à Niamey. Je n'ai entendu personne pour ça. Je suis allé voir les autorités nigériennes. J'ai eu un terrain, et maintenant je vais parcourir le monde entier pour chercher de l'argent pour faire ça. On se prend en charge. On lance
Il va falloir se prendre tous en charge. Malheureusement, le temps n'est pas extensible. J'aurais voulu qu'on continue d'en parler, et je pense qu'on reviendra encore sur les leçons tirées de cette année 2020, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. On parlera de ça avec les scientifiques qui ont pas mal de choses à dire. Nous arrivons donc au terme de cette émission consacrée à l'année 2020, une année qui restera dans l'histoire comme celle qui a bousculé toutes les certitudes et remis en cause de nombreuses théories sur lesquelles se fondait notre société moderne. Une année qui nous aura rappelé un peu à quel point nous sommes fragiles. S'il faut en tirer une leçon, c'est bien l'humilité. Et pour les Africains, elle restera l'année où ils ont plus que jamais compris qu'ils doivent se prendre en main, compter sur leurs propres forces, définir leurs propres priorités, développer les sciences, la mobilité, l'intégration continentale, mais surtout se débarrasser des complexes qui ont toujours fait penser que la science était l'affaire du seul blanc. Fini donc l'ère de l'intellectuel africain qui, pour étaler l'immensité de son savoir, se sentait obligé de citer 3 ou 4 noms d'auteurs, d'écrivains, de savants ou d'économistes occidentaux des siècles précédents. On espère donc que 2020 marquait la rupture pour une nouvelle ère, que c'était l'année zéro pour une période plus constructive, plus prospère et plus stable. C'est le vœu que nous formulons tous pour l'Afrique en ce début 2021. Toute l'équipe du débat africain, Delphine Michaud, Olivier Raoul, Alain Foucault, nous vous souhaitons une très très bonne année 2021. Qu'elle soit meilleure que 2020 et qu'on soit débarrassé des masques qui étaient très très tendance les 10 derniers mois. Et c'est sur cette chanson, ce titre, hommage à Manu Dibango, produit et exécuté par le chanteur camerounais de renom Petit Peigny, Rabi Rabat comme on l'appelle là-bas, que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci à Petit Peigny qui, encore une fois, aura réussi à rendre dansant et festif cet hommage, comme l'aurait certainement souhaité Manu Dibango, qui nous manque déjà. Dans un instant, une nouvelle édition du Jugement du RFI. Mais avant, écoutez ça, comme dirait Claudicia. À très vite.
Les baobas sont tombés. Toute l'Afrique pleure, la solitude. Quelle perte. Nous sommes tous coupables. Il fallait pas accepter.